talmudique. Giovanni Carreri, bonjour.
Bonjour.
Je pense que vous avez reconnu cette aria, Erbarmedich, ce sublime mouvement en si mineur de la Passion selon saint Matthieu. Et si je vous ai proposé d'entendre cette musique en entrée de cette émission, c'est que le texte de l'évangile de Matthieu est au cœur d'une des questions les plus fondamentales de l'histoire des religions et de l'art, et particulièrement au cœur de l'histoire chrétienne et de la construction que le christianisme a faite de son histoire et de l'histoire en général. Je pense à l'articulation des deux textes devenus fondateurs, l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est-à-dire pour le christianisme, l'ancienne histoire et la nouvelle. Et la question cruciale, si je peux dire, était de savoir comment faire tenir ensemble ces deux textes. Et l'art théologique, on se souviendra que le mot « art » signifie l'articulation, et l'art théologique dans le christianisme réside peut-être justement dans cette articulation de ces deux textes, et précisément du texte de l'évangile de Matthieu, c'est-à-dire que c'est précisément au texte de l'évangile de Matthieu qui a été donné ce rôle de faire le lien entre l'ancien et le nouveau. Matthieu va proposer une solution théologique dans une liste généalogique des ancêtres, et c'est cette généalogie des ancêtres, cette histoire des ancêtres du Christ, auquel vous vous êtes intéressé dans un livre extraordinairement passionnant qui s'appelle « La torpeur des ancêtres » avec ce sous-titre « Juifs et chrétiens dans la chapelle Sixtine ». Avec vous, nous allons parcourir toute cette histoire et rentrer dans la chapelle Sixtine pour comprendre qu'est-ce qui a attiré votre regard et comment Michel-Ange, justement, a proposé une solution formelle, plastique, à cette question de l'articulation de l'ancien et du nouveau. Giovanni Carreri.
Entrons donc dans la chapelle Sixtine et nous voyons tout de suite les fresques latérales qui ont été peintes avant. C'est la première chose qui a été peinte en 1482. Et déjà, il est question des rapports entre christianisme et judaïsme. Sous le côté droit, les histoires de Moïse. Sous le côté gauche, les histoires de Jésus. Moïse étant la préfiguration de Jésus. Et Jésus étant là pour passer, transmettre son pouvoir au pape. N'oublions pas que la chapelle Sixtine est le lieu de l'élection du pape. Si nous regardons vers le haut, il y a donc la voûte qui a été peinte plus tard, en 1508-12. Et là encore, il est question de relations avec l'histoire ancienne, puisque c'est la Genèse, la création de l'homme, des épisodes de la Bible et la présence des prophètes et des sibylles. Le modèle d'histoire sous-jacent est toujours celui de la préfiguration. Les prophètes et les sibylles sont là pour dire ce que vous voyez dans les histoires de l'Ancien Testament une valeur historique. C'est ça, c'est passé comme ça. Mais c'est aussi une valeur d'annonce. Et ensuite, la partie qui attire le plus le regard par sa dimension et aussi par la manière dont il est peint, les jugements derniers, donc 1535-41, la fin du monde. Donc cette chapelle, c'est vraiment une fabrique de l'histoire, une fabrique de l'histoire chrétienne. Et en traversant la chapelle, le spectateur traverse d'une certaine manière toute l'histoire de l'humanité, de la création jusqu'à la fin.
Alors, ce qui est passionnant, quand on rentre dans cette chapelle, donc face à la porte, il y a ce jugement dernier qui prend tout l'espace, comme vous dites. Et puis, le regard est tellement attiré par ce jugement dernier que le regard en oublie à regarder de manière beaucoup plus précise d'autres détails. Et je rappelle que les parois à droite et à gauche sont étagées sous forme de quatre niveaux. Il y a d'abord le niveau des tentures, il y a ensuite le niveau des représentations du cycle du Christ et à l'opposé le cycle de Moïse. Ensuite, il y a des papes qui sont le troisième niveau, ce sont les papes. Et au-dessus, on penserait qu'il n'y a que la voûte, mais il y a un intermédiaire qui est le quatrième niveau entre la voûte et les papes, qui sont justement ce que vous appelez dans votre livre, enfin ceux qui s'appellent les ancêtres du Christ. Or, ce niveau-là est peu regardé et vous avez fait une immense découverte par rapport à ces ancêtres du Christ et vous proposez de nouvelles hypothèses, de nouvelles interprétations. Giovanni Careri.
Essayons de décrire ces ancêtres du Christ. Ce sont des familles de mères avec un père et un ou deux enfants, le plus souvent. Des fois, c'est d'autres figures, mais le plus souvent, ce sont des familles enfermées dans un espace très réduit et qui se consacrent à quelque chose qui ressemble à la vie de tous les jours. Il y a la femme prépare à manger, le père, en général, est vieux. Et souvent fatigué, une dimension de forte mélancolie. C'est pour cette raison que j'ai utilisé les mots torpeur. Ensuite, ces mots ont une valeur idéologique très forte qui concerne l'inertie, le retard des Juifs à se convertir.
À reconnaître la vérité christique.
À reconnaître la vérité christique. Au milieu de ces lunettes, il y a la liste des noms de l'évangile de Matthieu que vous aviez évoqué. Et cette relation entre les noms des patriarches et des rois et ces familles fatiguées, occupées dans les tâches de la vie biologique, il y a beaucoup de femmes. Il y a tous les cycles de l'engendrement, femme enceinte, une allusion à l'accouchement, l'allaitement très présent, et puis s'occuper des enfants, mais d'une manière qui, d'une certaine manière, c'est jamais vu, c'est-à-dire d'une manière non idéalisée. Les enfants se jettent sur les mères, ils semblent ne pas obéir à des gestes d'ordre. Et les mères sont elles aussi fatiguées et abattues.
Alors, je m'arrête encore une minute pour rappeler que vous êtes directeur du CETA, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et que vous êtes professeur à l'École des beaux-arts de Lyon, et que vos recherches portent toujours sur des objets singuliers et singulièrement complexes, le montage des arts dans les chapelles baroques du Bernin, le réseau des tableaux, des pièces de théâtre et de ballet qui ont repris la Jérusalem délivrée du Tasse, et plus récemment, c'est l'objet de notre entretien, la fabrique de l'histoire chrétienne dans la chapelle Sixtine. Et nous reviendrons sur ce mot « montage », qui a un rôle central dans votre recherche, mais je voudrais maintenant qu'on reprenne donc cette dialectique entre les cartouches de noms et les personnages qui les entourent.
Oui, en Occident, quand il y a un nom et à côté une figure, immédiatement on attribue le nom à la figure. Donc c'est Aminadab, par exemple.
Aminadab, qui est un des noms de cette généalogie.
Un des noms de cette généalogie. Simplement, deux problèmes se posent tout de suite. C'est que dans cet groupe de figures des ancêtres du Christ, certains sont franchement ridiculisés. Il y a un homme qui se regarde dans un bâton où il a sa propre figure comme dans un miroir. Il y a un autre homme au long cou qui est en train de faire des comptes et qui m'a fait penser à la figure de l'usure. Il y a effectivement des familles, mais ce sont des familles très charnelles. Donc comment ces noms si dignes de respect et des valeurs se trouvent associés à ces figures si peu valorisées? Et la proposition que je ferais, c'est de détacher la liste des images. La liste est là pour produire cette greffe dont vous parliez tout à l'heure de l'histoire chrétienne sur l'histoire précédente. Et cette liste a une valeur de légitimation très forte. Les noms sont encadrés, sont beaux, sont grands, en lettres capitales. Cette nécessité de joindre l'histoire chrétienne sur quelque chose de plus ancien et de situer le Christ dans la lignée d'Abraham et vérifier ainsi des prophéties qui disent que le Christ doit naître dans cette famille-là. Mmh. Les images, les figures, pour moi, sont les lieux de la différence qu'il faut marquer d'un point de vue chrétien entre la manière ancienne et juive de considérer l'histoire, c'est-à-dire généalogique, et l'antigénéalogisme chrétien du Christ qui dit je ne connais pas mon père et ma mère, je connais que mes frères, de l'ouverture du christianisme à toutes les nations, donc de la rupture du modèle généalogique comme modèle historique. Il y aurait là donc une sorte de dialectique entre inclusion de l'histoire chrétienne dans l'histoire juive, exclusion, dans ce sens que le passage du nom par le sang ne se fait pas entre Joseph et le Christ, qui n'est pas le fils de Joseph. Mmh. Et cette paternité qui n'est pas charnelle, qui est spirituelle, produit des effets assez énormes, à la fois dans la conception chrétienne de l'histoire et aussi dans la question du rapport entre chrétiens et juifs. Ce qu'il faut tout de suite dire, que ces ancêtres du Christ sont juifs à triple titre. Ceux d'avant, c'est-à-dire ceux d'avant la révélation.
Oui.
Ceux d'après, c'est-à-dire qui s'obstinent à ne pas se convertir. Et puis, quelque chose comme les juifs typiques, c'est-à-dire saint ans. Les juifs comme position. Comme celui qui a un certain nombre de qualités négatives du point de vue chrétien.
Sans temps et sans nom, parce que vous montrez très bien que cette nomination au centre, puisqu'elle est là pour dire la généalogie du Christ, la généalogie, on pourrait dire, qu'il inscrit dans l'ancien temps, et puisque celle-là, elle a des noms, c'est que les juifs qui sont sur le côté deviennent sans nom.
Je dis des anonymes l'anonymat, je l'ai relié à une autre dimension importante qui est celle de l'errance. Beaucoup de ces personnages semblent des nomades. Ils ont des abris de fortune, des baluchons, des bâtons. Ils semblent ne pas posséder vraiment des maisons. C'est donc un rappel à cette dimension diasporique. Et au fait qu'avec la non-reconnaissance de l'incarnation, les Juifs se retrouvent sans État et sans nation et sans histoire. Et c'est comme des anachronismes vivants, qui sont là dans la chapelle Sistine, et je réponds aussi à la question de tout à l'heure, d'une manière qui m'a paru intéressante, c'est-à-dire comme une position d'inertie qui s'oppose à l'accélération messianique qui s'accomplit dans les jugements derniers. Et ça, il faudrait vraiment le regarder avec les yeux, parce que c'est avec ça qu'il faut... ce n'est pas un texte, ce sont bien des images dont je parle. Les jugements derniers est tout composé par des figures de la contraction, les raccourcis, la figure serpentine, des actions qui sont sous le point de se produire, tout se contracte. Et juste à côté, vous avez ces familles prises dans un autre temps, dans une poche de quotidianité. Et je me suis dit que c'était intéressant qu'à cette époque, parce que ça se fait dans une période complexe pour la chrétienté aussi, On est aménagé dans le dessin glorieux de la construction de ce corps glorieux vers la fin des temps, une zone d'inertie qui a un aspect juif, mais qui est aussi une position structurelle qui fait que il y a la place là aussi pour les chrétiens négligents, pour celui qui n'est pas rapide à se convertir.
Mmh.
D'où l'importance que j'ai accordée à la figure de Joseph. Ces vieux pères dans les cycles des ancêtres du Christ rappellent Joseph,
mm-hmm.
un vieux père avec une mère plus jeune et des enfants. Or Joseph, c'est le premier qui a hésité. Il n'a pas hésité longtemps quand il a découvert que Marie était enceinte. Il a voulu la répudier, c'est dans la loi. Mais après un ange est venu lui expliquer que l'enfant n'était pas celui d'un autre homme, mais celui de Dieu. Mais cette hésitation brève de quelques jours a suffi pour que sur Joseph se cristallise sous l'image de Joseph, plus dans la vie des images que dans les textes, se cristallise cette idée de la lenteur,
du retard. Alors ces personnages, vous parlez de l'ancien temps, vous dites qu'il y a trois temps. Ce qui est caractéristique, vous le signalez, c'est que ces juifs dans leur torpeur, sont habillés non pas comme les juifs de l'ancien temps, mais comme les juifs que Michel-Ange rencontrait ou aurait pu rencontrer autour de lui à Rome. Et en même temps, il y a cette remarque que vous faites, que l'autoportrait de Michel-Ange se trouve parmi les juifs. Alors ça m'a beaucoup intrigué, il y a beaucoup de choses qui m'ont intrigué, parce que déjà de découvrir qu'il y a beaucoup de juifs dans la chapelle Sixtine, c'est absolument questionnant, et que le personnage, que l'autoportrait de Michel-Ange s'inclut parmi ces juifs, qu'est-ce qu'il voulait dire par là ?
Michel-Ange, à cette époque, est arrivé à Rome après avoir écouté les prêches de Savonarole, qui sont intéressantes du point de vue de la relation juive, parce qu'il a, Savonarole, un rapport ambivalent, comme souvent les chrétiens avec les juifs. C'est pas du noir et du blanc, c'est compliqué. Les juifs, pour Savonarole, sont les peuples élus. Donc, excusez-moi, les Florentins, pour Savonarole, sont les peuples élus, donc une vision valorisante. Mais ils sont aussi les Florentins trop attachés à leurs habitudes, attachés au bien matériel, à s'occuper de leur famille. Donc, ils sont les mauvais juifs, les juifs qui retardent. Et Michel-Ange arrive à Rome et il conserve cette fidélité à la, même si Savonarole entre-temps a été brûlé. Il avait, Michel-Ange, dans sa maison, les écrits de Savonarole. Il a dit que sa voix résonnait encore dans sa tête. Donc ça, c'est un aspect. C'est-à-dire l'appel à la conversion, il a les sentiments, lui, de ne pas l'avoir suivi. Il se range parmi les tièdes. Et l'autre, c'est Michel-Ange poète, dont j'ai montré qu'il était toujours en train de se confesser comme étant tiède. Alors c'est cette tiédeur, cette lenteur à la conversion. Il s'adresse au Christ, il lui dit « Seigneur, entre mon cœur et toi, il y a une plaque de glace, il faut la casser. » Donc il se sent comme Joseph.
Vous pouvez nous donner un petit exemple de ce Michel-Ange poète ?
Oui. C'est un poème de 1534. Vorrei voler, signor, quel ch'io non voglio. Tra il fuoco e il cor di ghiaccio un vel s'asconde, che il fuoco ammorza, onde non corrisponde la penna all'opre e fa bugiardo il foglio. Io t'amo con la lingua, e poi mi dolgo che amor non giunge al cor, né sobbe onde apra l'uscio alla grazia che si infonde, nel cor che scacci ogni spietato orgoglio. Squarcia il vel, tu signor, rompi quel muro che con la tua durezza ne ritarda il sol della tua luce al mondo spenta. Manda il predetto lume a noi venturo, alla tua bella sposa, a ciò ch'io arda il cuor senza alcun dubbio e te sol senta. Je voudrais vouloir, seigneur, ce que je ne veux pas. Entre les feux et les cœurs des glaces une voile se cache, qui le feu éteint, la plume aux œuvres ne répond donc pas et fait mentir la feuille. Je t'aime avec la langue, et après je me plains qu'un amour ne parvient pas au cœur et que je ne sais pas où s'ouvre la porte à la grâce qui infuse dans les cœurs qui chasse l'orgueil impitoyable. Déchire les voiles, toi Seigneur, casse ces murs dont la dureté retarde le soleil de la lumière et teinte pour le monde. Envoie ta belle épouse la lumière promise qui doit venir pour nous afin que je m'enflamme les cœurs libres de doute et toi seulement je sente.
Merci beaucoup.
Ça, ce sont les conditions pour qu'on puisse imaginer que l'artiste ait pu réaliser une sorte d'opération d'altération de sa propre image. Mm-hmm. Les Juifs étant l'autre pour les chrétiens, mm-hmm. il est stimulant de penser qu'il ait pu faire cette opération. Mais c'est de ma part une hypothèse. Je ne peux pas la prouver d'aucune manière.
Oui.
J'ai, disons, construit les conditions qui font que ça pourrait
oui.
être comme ça.
Mais en tout cas, donc, c'est passionnant de voir que Michel-Ange se situe parmi ces Juifs dans la torpeur. Il y a d'autres interprétations, bien sûr. Ça, c'est la vôtre. Je pensais à l'interprétation de Gustave Moreau qui disait que cette torpeur, c'est la torpeur du rêve et que c'est tous ces personnages sont en train de rêver ouverts vers l'avenir, vers le futur.
Alors ça, c'est la... Vous faites penser à la manière dont les chrétiens, certains auteurs et la théologie chrétienne interprètent la torpeur de Joseph. Il est en train de rêver, disent-ils. Mais s'il est en train de rêver, pourquoi parfois il est si fortement ridiculisé? Mmh. Et les ancêtres du Christ dans la chapelle Sistine, s'ils sont en train de rêver, pourquoi ils portent les signes? Et les marques de
Alors voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, c'est éminemment important. C'est donc je reviens à votre idée principale, c'est que dans ces ancêtres du Christ, il y a une double lecture, il y a la lecture de l'inclusion par les cartouches et par la généalogie écrite et il y a la dimension de l'exclusion par ces positions de l'inertie, la torpeur et du retard. Mais ce que vous avez remarqué de manière absolument essentielle, c'est que certains personnages ont sur leurs vêtements un rond jaune qui correspond à la rouelle qui marque le juif, une rouelle d'infamie qui l'exclut de la même façon que vous avez remarqué que sur certains bras de femmes, il y a des brassards jaunes et cette couleur jaune, c'est la couleur de l'exclusion et de l'infamie.
Alors, ce n'est pas moi le premier qui a remarqué ces signes, c'est une historienne de l'art américaine qui s'appelle Barbara Wisch, en 2004, je pense, c'est-à-dire 15 ans après la Restauration. Et d'abord, il faut s'étonner que personne n'ait rien dit de la présence de ces signes. Ces signes sont des signes d'exclusion au sens fort du terme. Le but dernier, l'idée dernière qui est derrière ces marquages, c'est qu'on ne se mélange pas. Mm-hmm. Pas de mélange sexuel, notamment entre juifs et chrétiens. Il ne faut pas non plus penser, sans avoir les images sous les yeux, que les figures dont nous sommes en train de parler sont antisémites au sens fort de ce terme. C'est un anti-judaïsme compliqué. Mm-hmm. Certaines de ces figures de femmes inspirent de la sympathie. Certaines figures sont plus ridiculisées que d'autres.
Oui.
C'est très nuancé. Ce n'est pas. Mais enfin, il reste que cette dimension. Alors moi, je propose de voir ces familles comme un rapport avec la famille du Christ.
Oui.
Parce que les images, je les conçois toujours comme transformation d'autres images,
oui.
d'autres iconographies. Donc là, il y a une iconographie du noyau familial, le père, la mère et les fils, la Sainte Famille, valorisée par les chrétiens. Qu'est-ce qui, à mon avis, Michel-Ange l'a altéré vers la chair, vers la dimension de la chair. Cette
oui.
dimension de la chair m'importe beaucoup.
Oui.
C'est-à-dire d'attribuer aux Juifs une vie secundum carnem, cata
oui.
sarx, comme dit saint Paul. Et donc de rapprocher figurativement cette famille, de l'altérer dans la direction de la famille charnelle qui est celle d'Adam et d'Ève.
Mais ceci de manière extrêmement positive, c'est-à-dire que c'est à la fois l'exclusion et donc la figure de l'autre de l'autre exclu, de l'altérité. Mais vous dites que ils sont pas tous ridicules. Moi, à les regarder, je les ai trouvés éminemment beaux, éminemment attachants, éminemment tendres. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de, bien sûr, d'une rupture par rapport à toute la le mouvement du jugement dernier, mais quelque chose, comme vous dites, ça m'a beaucoup intéressé. Vous, pour analyser ces images, vous parlez du montage chez Eisenstein. Et vous dites que cela vous a donné un outil d'interprétation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, ça c'est la partie centrale du livre où j'essaie de montrer comment les trois parties sont articulées entre elles. En entrant dans la chapelle Sistine, le spectateur ne voit pas seulement un nombre incalculable de figures, seulement dans les jugements derniers, plus de 400, mais de manières différentes de construire l'espace, de construire le récit. Dans les fresques du Quattrocento, c'est l'historia au sens albertien, c'est-à-dire une narration avec des actions intelligibles. Le Christ donne les clés à Saint-Pierre. On peut regarder la voûte comme une première transformation de ce modèle de l'historia, dans la mesure où le cadre, l'encadrement très imposant où se trouvent les prophètes et les sibylles, déjà oriente cette historicité d'une manière forte vers le futur. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec les jugements derniers? C'est que toutes les règles de construction de l'espace, la perspective n'y est plus, il n'y a plus de cadre, l'action ne sont pas terminées. Les figures ne sont pas posées dans une boîte déjà là. C'est le mouvement des figures qui produit l'espace. Et donc, je dis, on peut regarder ceci d'un point de vue du montage. Pourquoi? Parce que dans la dernière des parties rajoutées, dans les jugements derniers, les règles qui régissent la construction de l'espace et du récit des autres parties explosent. Il y a donc... Et ça qui intéresse Eisenstein dans la non-indifférente nature, c'est de passer d'un type de récit à un autre pour produire des sauts, des sortes d'extase de l'histoire, étant entendu que le but final de tout ceci est la sortie de l'humanité de sa propre histoire. Alors c'est par rapport à ces mouvements, disons à ces montages, que les ancêtres du Christ ont une place très importante, parce qu'ils marquent la position... effectivement de la stase d'une certaine manière, ou alors d'un autre temps, que j'ai mis en rapport, comme vous avez pu voir, avec
Benjamin
d'une part, et avec d'autre part avec d'autres manières de concevoir l'histoire qu'est l'eschatologie. Alors d'abord Benjamin, parce que Benjamin conçoit l'histoire comme constellation. Alors je dis le livre commence par la fin, c'est-à-dire le livre commence par les jugements derniers, parce que au moment où on ajoute une pièce dans quelque chose qui était déjà là, comme dans la dernière page d'un livre ou la dernière scène d'un film, ce qui était déjà là change d'aspect.
Complètement, oui.
Ça, c'était là. Et donc, là, c'est pas ma lecture anachronique qui imposerait un modèle d'histoire benjaminien à un objet du XVIe siècle. C'est que je pense vraiment que Michel-Ange, qui a passé 10 ans de sa vie enfermé là-dedans, a pensé à la relation entre les parties et à penser, en introduisant les jugements derniers, à qu'ils s'articulent autrement dans une constellation. Et l'autre élément que je voulais rappeler, c'est que la dimension saturnine de ces figures, la dimension qui les lie à Saturne, on ne peut pas regarder des figures à moitié endormies, la main sous la mâchoire, sans penser à Saturne à cette époque.
Il y a la mélancolie.
Alors, quel rapport entre les Juifs et Saturne? Là, j'ouvre cette page et je me suis retrouvé dans un monde très intéressant, un peu étudié d'un point de vue de la vie des images pour l'Allemagne, où le rapport entre les Juifs et Saturne existe, et qui est d'une manière très violente, jusqu'à associer Saturne qui mange, Cronos qui mange ses enfants aux Juifs. Mais dans la chapelle Sistine, personne n'a fait cette relation, mis en relation Saturne et les Juifs. J'essayais de le faire en montrant que c'est un Saturne plutôt médiéval, c'est-à-dire celui qui est lent, attaché à la Terre. Et surtout, Saturne implique un mode de penser l'histoire cyclique, dominé par les planètes. Et il y a un rapport que j'ai établi avec les palais de la Ragione de Padoue, Mmh. C'est un cycle de mois, des travaux dans les mois. C'est comme si les ancêtres du Christ étaient là dans un temps de la nature, mmh. des planètes alternatives, un modèle alternatif au modèle messianique.
Mmh. Mais en même temps, il ressort de votre livre lecture de l'histoire, je dirais, de cette modernité. Moi, je pense que, enfin, l'image telle que vous le reprenez de Binyamin, je relis la phrase parce qu'elle est très importante. Il ne faut pas dire que le passé éclaire le présent ou que le présent éclaire le passé. Une image au contraire est ce en quoi l'autrefois rencontre le maintenant dans un éclair pour former une constellation. Merci Giovanni Carreri pour cette passionnante conversation. Votre livre, La torpeur des ancêtres, avec ce sous-titre « Juifs et chrétiens dans la chapelle Sixtine », je dois le dire, je peux le dire, je n'ai pas peur de mon enthousiasme grandiloquent. Ce sont 325 pages de pur bonheur pour les yeux et pour l'intelligence. C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin, préparée avec Françoise-Anne Ménager. Aujourd'hui à la prise de son, Philippe Palares, et à la réalisation, et ce n'est pas une blague, Michel-Ange Vinti. Je sais, il fallait le faire, mais la vie a beaucoup d'imagination. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Culture. Léitraot, au revoir, bon dimanche à tous, et à la semaine prochaine.